André, la patrie reconnaissante. Merci Hervé Le Tellier.
Merci.
Il est 8h.
Filmo, la première plateforme de streaming 100% cinéma. Classique, découverte, cinéaste d'aujourd'hui et de demain. Chaque mois, retrouvez des milliers de films des plus grands réalisateurs et réalisatrices. Avec Filmo, accédez au meilleur des cinémas. Des émissions exclusives, des films inédits que vous ne verrez nulle part ailleurs. Osez les classiques, osez les découvertes, osez Filmo. Pour seulement 6,99€ par mois. Et en ce moment, profitez de l'essai offert et sans engagement sur filmotv.fr.
France Inter,
première radio de France.
Il est 8h. Le journal Corinne Audouin, bonjour.
Bonjour à tous. Je veux que mon frère revienne, la supplique des proches des otages israéliens à Gaza. Plus de 6 mois de guerre entre Israël et le Hamas, toujours pas de trêve ni de cessez-le-feu en vue. Reportage de notre correspondant hier soir à Tel Aviv, où les familles des otages continuent inlassablement de manifester. Dans l'actualité aussi, un nouveau parquet national contre la criminalité organisée, le PNACO, annonce du ministre de la Justice, on vous explique. La Corse qui espère faire revenir les touristes cet été. Avions et ferries sont trop chers, disent les professionnels. À partir de demain, à la télévision, une campagne de sensibilisation contre les violences éducatives ordinaires. Et puis le PSG, pas encore tout à fait, mais presque champion. Après son match nul face au Havre, on y revient dans le journal des sports de Nicolas Perronnet. Avant, vos invités à 8h20, Ali et Marion.
Ils viennent nous éclairer sur le sujet délicat du sexe, devenu plus rare, plus grave ces dernières années. Selon les dernières études, on aurait de moins en moins de relations sexuelles. Les jeunes, surtout, sont concernés. Est-ce une réalité? Pourquoi et comment y remédier? Question posée à nos deux invités, Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, qui publie un dossier sur ce sujet, et la sexologue Olivia Benhamou.
Tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe, on attend vos témoignages et vos questions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter.
Plus de 6 mois de guerre entre Israël et le Hamas, c'est la durée de la très longue, de l'insupportable attente des familles des otages israéliens. Alors que le Hamas dit étudier une contre-proposition de trêve formulée par Israël, le mouvement islamiste a diffusé hier soir une vidéo de deux otages, deux hommes de 64 et 47 ans, enlevés le 7 octobre, captifs à Gaza. Vidéo projetée hier soir à Tel Aviv, où les familles des otages se sont à nouveau rassemblées pour demander aux deux parties de trouver un accord, une supplique prononcée notamment par le père d'Oman Miran, l'un des deux otages filmés par le Hamas. Thibault Lefebvre y était.
Le discours est poignant. Danny Miran a les yeux rougis et une longue barbe qu'il a décidé de ne pas tailler jusqu'à la libération des otages. Il exige une trêve. Deux heures avant, il a vu pour la première fois depuis le 7 octobre le visage de son fils Omri dans la vidéo publiée par le Hamas.
D'un côté, tu es très content de voir qu'ils sont en vie, mais d'un autre côté, tu peux remarquer dans leur regard qu'ils sont en train de souffrir.
Pour Michael Lévy, c'est un signe d'espoir. Son petit frère, Or, est otage à Gaza.
Je pense que la seule solution, c'est un accord. J'essaye de ne pas me demander à qui la faute, je veux juste résoudre cette situation.
Dans l'assistance, Sheked est en pleurs. Il y a de la peur, bien sûr, mais aussi de la colère contre les milliers de manifestants à travers le monde qui, selon elle, défendent la Palestine, mais crachent sur Israël.
Ici, on demande à ce que la guerre s'arrête, qu'il y ait un accord et que les gens reviennent. Et malgré ça, la planète nous considère comme des agresseurs. Et c'est très dur.
La manifestation se termine avec les noms des otages lentement égrenés. Ils sont encore 133 aux mains du Hamas.
Thibault Lefebvre à Tel Aviv, dans le sud de la bande de Gaza. Israël continue à préparer une offensive terrestre à Rafah, la jetée flottante qui permettrait de faire entrer plus d'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé, devrait être entièrement fonctionnelle la semaine prochaine. L'armée américaine a commencé sa construction jeudi. Et puis le chef de la diplomatie des États-Unis, Anthony Blinken, sera demain en Arabie Saoudite pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu. Dans le nord d'Israël, le Hezbollah libanais revendique le lancement de dizaines de drones, de missiles et de roquettes. Le mouvement pro-iranien dit avoir visé des positions militaires en riposte aux attaques d'Israël hier dans le sud du Liban. Le conflit au Proche-Orient qui continue d'échauffer les esprits dans les universités américaines. Près de 200 manifestants pro-palestiniens ont été interpellés hier dans 3 campus à Boston, en Arizona et dans l'Indiana. Un mouvement qui gagne aussi la France, notamment à Sciences Po Paris, marqué par des occupations et des blocages ces derniers jours, avant l'accord trouvé vendredi soir avec la direction. Hier, Gabriel Attal a déploré un spectacle navrant et choquant. Le Premier ministre affirme qu'il n'y aura jamais de droit de blocage, jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante et dangereuse. Fin de citation.
8h05, après le parquet financier et le parquet antiterroriste, voici le parquet contre la criminalité organisée.
Et il s'appellera le PNACO, c'est l'annonce ce matin du ministre de la Justice dans un entretien accordé à la Tribune dimanche. Éric Dupond-Moretti veut un nouveau procureur national pour mieux lutter, Pierre de Cossette, contre les trafics de drogue et le crime organisé.
Il y a quelques semaines, un magistrat spécialisé nous confiait que la criminalité organisée était appelée à égaler, voire dépasser la menace terroriste. Éric Dupond-Moretti ne fait pas ce parallèle, mais pour appuyer son projet de PNACO, Parquet National Anticriminalité Organisée, il n'hésite pas à faire référence au Parquet National Antiterroriste créé il y a 5 ans et qui marche du feu de Dieu, ajoute-t-il. Référence aussi au Parquet National Financier créé il y a 10 ans. Pas de détails à ce stade sur le nombre de magistrats qui armeraient ce nouveau parquet spécialisé à compétence nationale contre le crime organisé, donc, ni sur l'organisation de cette nouvelle entité judiciaire. Le ministre de la Justice précise simplement qu'il s'agit de lutter contre le haut du spectre de la criminalité organisée, en bonne intelligence avec les 7 procureurs à la tête des juridictions interrégionales à Marseille, Lyon, Lille ou encore Paris. Le garde des Sceaux en dira plus à l'automne.
Et autre nouveauté annoncée par le ministre, la création d'un nouveau statut de repenti sur le modèle de la justice italienne. La loi française actuelle est trop complexe et peu efficace. Emmanuel Macron est prêt à ouvrir le débat sur la défense européenne, y compris avec la dissuasion nucléaire. Dans un entretien accordé aux journaux du groupe Ebra, le président de la République propose de tout mettre sur la table et de regarder ce qui nous protège véritablement de manière crédible. La France est le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire. Certains sont encore en vacances de printemps, quand d'autres rêvent déjà à celle de l'été prochain. Et au palmarès des destinations les plus prisées, la Corse perd des places. Après une saison décevante l'an dernier, 8% de visiteurs en moins. L'île s'inquiète car le tourisme est vital en Corse, plus que dans n'importe quelle autre région de France. Alors pour faire revenir les visiteurs, les professionnels demandent une baisse du prix des ferries et des avions. Reportage à Porto Vecchio de William Delesseux.
Sous les mûriers de la terrasse du bistrot, vue sur le port de Plaisance, la pêche du jour est inscrite à la carte de Damien Chilichini.
Du corbe, du pagre, du mérou.
Avant la saison estivale, il faut faire les comptes. Et ici, l'addition moyenne a baissé de 20% en 2 ans.
On a de plus en plus de gens qui sont regardants, qui partagent, qui, au lieu de prendre une boisson pour chacun de leurs enfants, n'en prennent qu'une pour 3.
En cause, le budget vacances des clients déjà amputé avant même d'arriver sur l'île.
Quand une famille arrive chez nous et qu'elle a payé un certain prix son billet de bateau ou son billet d'avion, et ils sont un petit peu plus réticents et freinés à dépenser dans nos commerces.
Pour une famille de 4 personnes, le prix d'un aller-retour en juillet atteint déjà près d'un millier d'euros, alors les réservations dans les hôtels ne suivent pas.
C'est loin d'être la folie. Hein. On risque même d'être au-dessous de l'année dernière en fréquentation.
Sur les hauteurs, César Filippi, à la tête de l'hôtel Le Belvédère et du groupement des hôteliers, il réclame un plan d'urgence.
L'État et les compagnies régionales doivent se mettre avec les professionnels pour qu'on leur explique exactement de quoi ils retournent et corriger afin qu'on n'ait pas au moins ce handicap. On en a déjà suffisamment.
La compagnie Air Corsica assure par exemple qu'elle ne peut pas faire baisser ses prix. Elle a même demandé une subvention annuelle plus importante de la part de l'État.
William Delesseux. En France, la vigilance en France, bien sûr, comme en Corse, la vigilance aux orages élevée partout, mais plusieurs milliers de foyers restent privés d'électricité dans les départements de Dordogne, de Corrèze et du Limousin. en raison notamment de chutes d'arbres sur des lignes à haute tension.
Une citation maintenant, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique.
Et oui, on le rappelle, c'est écrit depuis 5 ans dans le Code civil, mais entre la loi et la pratique, beaucoup de parents estiment toujours légitime d'administrer des fessées et des claques à leurs enfants ou de les humilier verbalement contre ces violences qui laissent des traces. L'association Stop Violences Éducatives Ordinaires lance une campagne télévisée à partir de demain. Gabriel Grécourt.
L'héritage, c'est le nom de cette nouvelle vidéo de sensibilisation. Elle alerte sur la transmission à travers les générations des violences ordinaires envers les enfants.
Cette main, c'est mon héritage. Mais on peut toujours tourner le dos à un héritage.
Pour arrêter cette continuité de la violence, la loi interdit depuis 2019 les fessées, gifles ou humiliations. Mais plus largement, il faudrait changer les mentalités sur l'enfance, selon Gilles Lazimi, président de l'association Stop Violences Éducatives Ordinaires.
Bien sûr, cette loi, elle est symbolique, elle est forte, elle existe. Elle est lue pendant les mariages, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut des mesures d'accompagnement. On a un regard et une représentation des enfants qui est erronée. C'est-à-dire qu'on a considéré que les enfants, il fallait les dresser, qu'il fallait les faire obéir à tout prix.
D'autant que ces violences ont un impact néfaste sur les enfants, souligne Gilles Lazimi.
On sait avec de très nombreuses études que ces violences ont un impact sur la santé et sur les apprentissages et que si on veut demain des enfants moins violents, des enfants plus empathiques, une société plus pacifique et en ayant moins de stress, de dépression, eh ben on sait qu'il faut cesser ces violences.
Cette campagne de prévention devrait être diffusée pendant un mois environ à la télévision. Elle est déjà accessible sur les réseaux sociaux.
Et une vidéo à retrouver sur le site de l'association stopveo.org. Du bien-être dans l'éducation au bien-être au travail. En cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, travailler peut, mais oui, nous rendre plus épanouis. La franchise Café Joyeux s'est penchée sur le bien-être de ses employés. Ses restaurants emploient près de 200 personnes en situation de handicap cognitif. Et d'après une enquête menée par le laboratoire d'études d'impact social de l'ESSEC, ses salariés souvent exclus du monde du travail, y trouvent leur compte. Robin Schmitt.
Plus d'interactions sociales, plus de compétences professionnelles, que du plus pour les employés en situation de handicap dans l'entreprise. Du moins, c'est le constat d'Élise Leclerc, qui a dirigé l'étude pour l'école de commerce ESSEC.
On voit un impact très fort sur l'augmentation de leur confiance en eux, sur les compétences qu'ils ont pu développer. 93% des équipiers donc disent avoir augmenté leur autonomie.
Le Cadan France, par exemple, en plein service de midi, la trentenaire va et vient entre la salle et la cuisine.
Tu peux avoir des couverts, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr, madame. Ça va arriver.
Anne France est porteuse de la trisomie 21. Elle est engagée il y a 2 ans, sans expérience.
En arrivant, je ne savais pas faire porter le plateau, à la caisse et le café. M'a beaucoup appris.
Mais maintenant, elle sait se débrouiller toute seule. Travailler 5 jours par semaine l'a rendue bien plus autonome.
Grâce au Café Joyeux, je ne sais pas le métro, alors qu'avant, je n'arrivais pas pour le métro. Je me sens à l'aise maintenant.
À l'aise, mais aussi plus en confiance face au regard des autres. Comme 9 employés du Café Joyeux sur 10, elle se sent
plus libre d'aller visiter des musées, de sortir. Pour moi, c'est heureux. C'est grâce au travail.
L'étude pointe aussi l'impact sur les familles des salariés. Elles se sentent plus fières de leurs proches et sont moins inquiètes pour leur avenir.
Robin Schmitt du service économie et sociale de France Inter.
8h12, l'heure du journal des sports.
Et Nicolas Perronnet nous a rejoint à petite foulée ce matin. Bonjour Nicolas.
Bonjour Corinne.
Et le PSG n'a finalement pas célébré hier soir au Parc des Princes.
Et non, tenu en échec 3-0 face au Havre. Les supporters vont devoir encore patienter un peu pour fêter le 12e titre parisien en Ligue 1. Alors sans doute pas longtemps, hein, il y avait déjà guerre de suspense avant la rencontre. Il y en a encore moins ce matin. Et il n'y en aura peut-être plus du tout ce soir si Monaco, deuxième, ne s'impose pas à Lyon. L'entraîneur Luis Enrique, de toute façon, a fait des comptes et lui ne s'embarrasse plus du tout du conditionnel.
On est champion, qu'il y ait une fête ou pas, ça m'est égal. On est champion de France, sans aucun doute. Une différence de but, plus 29 sur le deuxième, je me sens déjà champion.
Voilà, le PSG.
Record de vitesse, Luis Enrique, dans la parole.
On l'aura compris, en tout cas, le PSG entièrement focalisé sur une chose, hein, son grand rendez-vous évidemment à venir face à Dortmund la semaine prochaine.
Comme d'ailleurs sa section féminine.
Oui, qui joue elle aussi une demi-finale de Ligue des Champions. Ce sera là cet après-midi face à l'OL, les Lyonnais. lyonnaises sont en ballottage favorable après leur victoire. 3-2 au match aller. Le coup d'envoi 16h au Parc des Princes.
Avec une forte affluence attendue, comme hier à Bordeaux, pour les Françaises en rugby.
Oui, 28 000, 23 personnes, c'est très précis, ont vu les Bleus rater le Grand Chelem, s'incliner une nouvelle fois face à l'Angleterre. C'est une précision importante car c'est un record d'affluence pour un match de rugby féminin en France. Et ça console un peu la talonneuse Agathe Socha.
Ça touche, je pense qu'on n'en prend pas forcément la pleine mesure. Nous, notre objectif, c'est aussi de faire briller les yeux des petits garçons et des petites filles qui nous regardent. Et on a envie d'amener les gens avec nous dans notre aventure, dans notre rugby, et d'amener les gens au rugby tout court. On s'en rendra peut-être compte après, mais on est très fiers. Ouais.
Ah, de quoi atténuer un petit peu la déception d'une 13e défaite consécutive face aux Anglaises.
Et puis, c'est aujourd'hui le retour d'une course à la voile historique.
Oui, l'une de celles qui ont fondé la discipline. La Transat anglaise avait disparu du paysage depuis 8 ans. Maintenant, elle renaît aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis. Avec une particularité, Jérôme Val, celle d'attaquer l'Atlantique par le nord.
À la fin des années 50, une poignée de marins intrépides cherchaient un défi à la hauteur de leurs envies les plus folles. Voilà comment est née la première course en solitaire qu'à l'époque, beaucoup trouvaient insensée. La première édition en 1960 ne réunit d'ailleurs que 5 bateaux. Mais en quelques années, elle a vu s'imposer des légendes. Alain Colas, Loïc Perron à 3 reprises et Éric Tabarly qui la gagne 2 fois en 1964 et 1976. Après avoir affronté des conditions en mer dantesques.
Il y a eu beaucoup de mauvais temps, il y a eu 5 dépressions en 8 jours de temps, dont 2 très, très fortes, vraiment du vent vraiment sur le nez tout le temps. Hein.
Là où les autres transats créés plus tard, comme la route du Rhum, filent vers le soleil aux Antilles, les concurrents de la transat anglaise affrontent l'Atlantique Nord, usant, raconté en 2016, le dernier vainqueur, François Gabart.
C'est unique, quoi, parce que traverser l'Atlantique, c'est pas rien. C'est un exercice en soi qui est pas anodin et que je ferai pas 50 mille fois dans ma vie non plus.
En 1960, les pionniers mettaient 40 jours à rejoindre l'Amérique. Les marins de 2024 sur leur monocoque nouvelle génération mettront sans doute une grosse semaine.
Et départ de cette Transat à 13h30 depuis Lorient.
Merci Nicolas Perronnet. Dans votre journal Corinne Audouin, il est 8h16.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Elle est toujours là, Céline Dacosta, et elle nous annonce de bonnes averses pour l'est du pays aujourd'hui.
Oui, on les retrouve déjà ce matin du Languedoc-Roussillon, région PACA, Rhône-Alpes, jusqu'en Alsace, accompagnées de rafales de vent, alors moins fortes qu'hier, mais bien présentes. Du vent, on a aussi sur les côtes de la Manche, avec là aussi un petit peu de pluie. Idem sur la façade atlantique, on aura quand même également un petit peu de soleil. Partout ailleurs, l'ambiance sera partagée entre nuages et éclaircies. Pour les températures, un peu frais ce matin, surtout sur le nord du pays, la moyenne va de 6 à 15 du nord au sud avec 10 degrés à Paris.
Mais les averses reviennent par l'ouest cet après-midi. J'ai interrompu, ouais. Ali, vous aviez une question ?
Non, non, pas du tout, j'allais
sur Paris.
Dire l'heure.
Mais il faut quand même qu'elle nous explique que les averses reviennent par l'ouest.
À 8h17.
Oui, elles seront, ben voilà, on a tout dit, elles seront même parfois orageuses entre le nord de l'Aquitaine, la région centre, le nord-ouest, la pointe nord en passant par la région parisienne. Il pleuvra toujours de façon beaucoup plus soutenue avec parfois quelques coups de tonnerre de la Méditerranée au nord-est. On va surveiller les cumuls sur les Cévennes, c'est là où il va le plus pleuvoir aujourd'hui. On attend 3 semaines de pluie d'ici ce soir. Quant aux températures, on est dans les normales, sauf près de la Méditerranée où c'est un peu juste pour la saison. 12 à 19 du nord au sud, jusqu'à 26 à Ajaccio. Là, le soleil va briller toute la journée.
Merci Céline Dacosta. Tout de suite, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere.
Huawei Duba. Sur France Inter.
Bonjour Antoine Malo.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Ce matin, Antoine, vous nous parlez de l'Espagne où tout le monde attend de savoir si le Premier ministre Pedro Sanchez va démissionner ou non.
Oui Ali, et ce psychodrame dure maintenant depuis mercredi. Ce jour-là, Sanchez a publié une longue lettre sur son compte X pour dire qu'il avait besoin, et je reprends ses mots, de s'arrêter et de réfléchir pendant 5 jours pour savoir s'il allait continuer à diriger le pays. Depuis, le dirigeant socialiste, qui est au pouvoir depuis 2018, se mure dans le silence. Alors si on en croit sa lettre, c'est par amour qu'il pourrait quitter le navire parce qu'il ne digère pas qu'une enquête pour corruption ait été ouverte contre son épouse, Begoña Gomez. Le Premier ministre parle de faits mensongers et d'une campagne de harcèlement menée contre son couple par ses adversaires ultra-conservateurs. Est-ce qu'il faut croire ? Je ne sais pas, mais en tout cas sa démission est bien sur la table. Apparemment, Sanchez aurait pris sa décision puisqu'il en a fait part hier au roi Felipe VI. Mais les Espagnols, eux, devront attendre demain pour connaître le verdict.
Et on a une idée de ce qu'il va faire, Pedro Sanchez ?
Bah, pas vraiment, Marion. Certains proches de Sanchez disent qu'il est vraiment affecté, au bord du burn-out même, et qu'il va partir. Et puis il y a l'autre camp, plutôt à droite, qui pense que tout ça, c'est du théâtre, que Sanchez n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Ce chantage à la démission ne serait qu'un coup de poker du chef du gouvernement, une sorte d'électrochoc pour remobiliser ses troupes avant deux élections très importantes, les régionales anticipées en Catalogne le 12 mai et les européennes le 9 juin. Bon, si c'est la stratégie, ça semble plutôt marcher puisque 12 000 sympathisants socialistes ont manifesté hier devant le siège du parti à Madrid pour le supplier de rester.
Alors oui Antoine, mais ce Begonia Gate, est-ce qu'il ne dit pas aussi quelque chose de l'évolution de la vie politique chez nos voisins espagnols ?
Beaucoup de choses même. Et d'abord que l'Espagne, comme le reste de l'Europe, n'échappe pas à la polarisation, voire à une certaine trumpisation de la vie publique, avec tout ce que cela implique comme campagne de désinformation et de dénigrement. Sanchez a raison quand il dit que son couple est harcelé. Juste un exemple, sur les réseaux sociaux, il est répété que Begonia serait en fait un homme et que son vrai nom est Begonio. Un corollaire de tout ça, c'est l'influence de l'extrême droite dans le pays. On connaît déjà le très xénophobe parti Vox, qui est la troisième force au Parlement, mais il est établi que le patron de Main Propre, l'association à l'origine de la plainte contre Begonia Gomez, est lié à ces milieux d'extrême droite. Et puis, du point de vue institutionnel, cette mini-crise est un nouveau symptôme de l'instabilité chronique dont souffre l'Espagne. Depuis l'année dernière, Sanchez gouverne grâce à une coalition très fragile de 7 partis. À l'intérieur, il y a notamment les indépendantistes catalans qui monnaient très cher leur soutien. Ce qui se dit dans la presse espagnole, c'est que le coup de semonce de Sanchez serait un moyen de les affaiblir dans l'optique des régionales du 12 mai. Alors, si c'est vrai qu'il parvient à ses fins, on pourra toujours saluer son sens tactique. Mais en mettant en scène cette affaire et le pays en pause pendant 5 jours, il risque aussi d'agacer fortement une partie des électeurs espagnols et finalement de les jeter dans les bras de ceux qu'il entend combattre.
Merci Antoine Malot, c'était Géopolitique. À suivre, le grand entretien avec Alexandre Lacroix et Olivier Benhamou.
1804, l'exécution du duc d'Enghien.
Dimanche, 21h, Stéphanie Duncan.
En mars 1804, Bonaparte faisait enlever et fusiller ce prince de sang, et 2 mois plus tard, il proclamait l'Empire.
Nous sommes là pour exécuter la sentence.
Mais je voudrais voir le général Bonaparte et lui parler.
Cela ne se peut pas. Mais...
Autant en emporte l'histoire.
Tous les dimanches à 21h sur Inter et en podcast quand vous voulez.
Il est 8h21.
France Inter. Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
Qu'avons-nous fait de la libération sexuelle ? C'est un numéro exceptionnel de Philosophie Magazine qui est consacré au sexe. Sexe, où est-ce que ça coince ? Et on a voulu justement nous emparer de cette question de l'amour physique, de l'érotisme, de ce qui devrait rester léger et qui pourtant devient souvent grave. Et on va en parler justement de la sexualité, de la représentation de la sexualité, de la pratique de la sexualité avec deux personnes dont nous avions envie de croiser les regards, Alexandre Lacroix et Olivia Benhamou. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue Alexandre Lacroix, vous êtes directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, essayiste, auteur de Apprendre à faire l'amour. Quant à vous, Olivia Benhamou, vous êtes psychologue clinicienne, sexologue, psychothérapeute, autrice notamment de ce petit guide d'entrée dans la vie sexuelle qui a été publié au Cherche Midi. Et vous connaissez très bien la question des jeunes, la question des étudiants notamment. Les étudiants dont vous avez recueilli des témoignages, Alexandre Lacroix, pour ce numéro de Philomag. On va en parler dans un instant. Nos auditeurs peuvent vous poser toutes les questions qu'ils veulent au 01 45 24 7000. Vous jurez d'y répondre en transparence ou sur l'application France Inter. Sexe, où est-ce que ça coince ? Alexandre Lacroix, très sincèrement, qu'est-ce que la philosophie a à nous dire du sexe ?
Alors, les philosophes traditionnels, ceux qui peuvent tomber au bac, consacrent peu de pages au sexe. Mais je me souviendrai toujours d'une phrase que m'avait dit un ami qui était écrivain quand j'étais jeune. Il me dit, tu sais, c'est très intellectuel le sexe. Il m'avait fait hurler de rire sur le moment. J'avais 20 ans, je me disais, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ? Qu'est-ce que ça a d'intellectuel le sexe ? Et petit à petit, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ce qu'il voulait dire, c'est que pour avoir accès à sa propre sexualité, vivre bien le rapport avec l'autre, il faut déconstruire un certain nombre de schémas, un certain nombre d'attentes supposées. Il faut vaincre certains interdits en soi-même. Enfin, il y a tout un cheminement. Et ce cheminement, j'ai l'impression qu'on peut le faire parfois en s'appuyant, alors peut-être pas sur des philosophes classiques, mais sur une tradition littéraire et philosophique qui est celle des arts érotiques.
On va en parler parce qu'il y a aussi malgré tout des slogans de la libération sexuelle, jouir sans entrave. Pourquoi est-ce que c'est malgré tout une apparence trompeuse lorsqu'on évoque des slogans comme celui-là ?
Alors, la révolution sexuelle, c'est une promesse de liberté intégrale dans la sexualité, d'une sexualité qui serait vécue en fait sans négativité. Ce dont on s'aperçoit, c'est que, et c'est assez intéressant, maintenant que 30 ou 40 ans se sont écoulés, c'est qu'on ne peut jamais se libérer complètement des limites et de la vulnérabilité, d'une certaine forme de négativité dans la sexualité. D'ailleurs, notre dossier part de deux actualités fortes qui sont dans la tête de l'esprit des gens aujourd'hui, je pense. D'abord, il y a eu toute une série d'affaires, qu'on pense à l'affaire Depardieu ou à la prise de parole de Judith Godrèche, qui font qu'on comprend bien qu'il y a quelque chose qui coince du côté de la violence masculine. Et il y a une prise de parole sur ces problèmes de société aujourd'hui. Mais d'autre part, il y a eu un sondage IFOP-LILO qui documente une récession sexuelle chez la jeunesse. Et c'est notre deuxième point de départ.
Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant. Est-ce que vous le confirmez d'ailleurs, Olivia Benhamou, ce recul ou cette mise en retrait ou cette moindre pratique de la sexualité chez les publics jeunes, on va le dire vite?
Je suis un petit peu mitigée par rapport aux effets de ce sondage. On en parlait tout à l'heure avec Alexandre. Enfin, j'estime que le fait de mettre en avant une quantification de l'activité sexuelle, ça peut aussi véhiculer de nouvelles injonctions et de nouvelles normes dont les jeunes n'ont pas besoin, puisque ce qu'ils peuvent dire, alors même si je pense qu'ils tentent toujours d'avoir une vie sexuelle, peut-être qu'ils parlent plus facilement des difficultés qu'ils rencontrent sur ce chemin semé d'embûches qu'est la première expérience sexuelle, la première rencontre amoureuse et tout ce que ça comporte comme difficulté. Mais finalement, ils se débattent aussi à la fois avec des idéaux, une réflexion, une connaissance de soi et une découverte de son propre corps, de son fonctionnement face à l'excitation sexuelle, à la rencontre avec l'autre, au regard que l'autre porte sur soi, etc. Donc il y a vraiment un mélange, je pense, entre faire avec l'idéologie, l'affaire MeToo, la politique, l'environnement, etc. Et ce qu'ils ressentent dans leur propre corps et toutes les questions qui se posent sur la norme. Est-ce que je suis normale? Si j'ai tel fantasme? Si mon corps est comme ci? Si j'ai telle quantité de sperme lors de mon éjaculation, etc. Il y a aussi la pornographie. Enfin, il y a énormément de facteurs qui pèsent sur l'entrée dans la vie sexuelle aujourd'hui.
Mais Alexandre Lacroix, quand on titre un dossier, où est-ce que ça coince? Est-ce qu'il n'y a pas déjà l'idée justement d'une injonction? Il y a quelque chose de coincé, c'est un peu négatif, il faut le décoincer.
C'était une manière pour nous d'attraper les deux problèmes, c'est-à-dire le problème de la violence, des agressions sexuelles, et puis le problème de la récession sexuelle. On peut discuter si elle a lieu ou pas, mais quand même un chiffre qui sort de ce sondage qui est frappant, un quart des jeunes sexuellement initiés, c'est-à-dire 28%, admettent ne pas avoir eu de rapport sexuel dans l'année écoulée. Et c'est 5 fois plus qu'en 2006.
C'est 5 fois plus qu'en 2006.
Voilà. Or, il n'y aurait que ce sondage. Bon, on pourrait dire, tiens, c'est étrange, c'est un chiffre comme ça qui a l'air de sortir d'un chapeau magique, mais en fait, d'autres études menées en Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis depuis maintenant 7 ou 8 ans, montrent que cette récession sexuelle dans les pays développés semble être documentée. Donc c'est pour ça qu'on se dit, mais qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui se produit? Surtout qu'on a affaire à des plateformes avec du porno disponible en streaming et à l'époque des applications de rencontres. Donc on commence à réfléchir à des interconnexions possibles entre ces différents phénomènes sociaux.
Mais ça impliquerait que c'est coincé parce qu'on n'a pas forcément envie d'une relation sexuelle. Et ça, Olivia Benhamou, est-ce que finalement c'est pas aussi que les gens acceptent plus, assument plus, peut-être parfois des absences de désir? Par exemple, dans le même sondage, 12% disent qu'ils sont asexuels. D'ailleurs, il y a Ovidie qui intervient aussi, l'ancienne actrice porno dans cet essai, qui a fait un essai dans La chair est triste, hélas, et elle défend la sexualité. Donc est-ce que c'est pas aussi qu'on assume des sexualités peut-être différentes sans pénétration ou une absence de sexualité?
Je pense qu'il y a une difficulté à vouloir absolument traiter de la question de la sexualité en généralisant, alors qu'il s'agit au fond d'une histoire extrêmement individuelle et singulière.
Ça n'est pas politique, ça n'est pas social. C'est-à-dire
que, évidemment, moi j'ai un point de vue un peu biaisé parce que je rencontre les gens seuls à seuls,
en tête à tête,
et on prend le temps d'aller dans le détail de leur histoire, de comment effectivement ils se sont représentés la sexualité, quel discours éducatif ils ont reçu, qu'est-ce qu'on leur a appris, et comment avec quoi ils ont grandi, si vous voulez. Et ensuite, évidemment, il y a les événements de vie qui, lorsqu'on vit un traumatisme sexuel, bien évidemment, a un impact sur la manière dont on va aborder sa sexualité. Donc, ce qui pose problème, ce serait, à mon avis, de dire que cette récession observée par les sondages traduirait une baisse du désir et de l'envie de la sexualité. Et à mon avis, là, il y a un vrai hiatus, parce qu'en réalité, les jeunes ont très envie de vivre des rencontres amoureuses et sexuelles. En revanche, ils ne s'en sentent pas forcément capables, ils se sentent en difficulté. Il y a une chose très importante quand même, c'est le Covid. Parce qu'on n'en parle plus, mais les étudiants, ça, ils y reviennent tout le temps, que je les vois en groupe, ah oui, dans les cafés sexo ou dans les entretiens individuels. Ils m'expliquent qu'ils ont commencé leur vie amoureuse et sexuelle à l'ère du Covid et que pour leur génération, il y a quelque chose d'un empêchement à la rencontre. Alors on va nous dire oui, mais il y a les applis de rencontre, etc. Eh bien non, en fait, parce que ça a précipité peut-être des rencontres avec des inconnus, des prises de risques, parce qu'il y avait malgré tout une envie et il y a une pulsion. Et ça, personne ne peut dire que cette pulsion n'existe pas chez tous les êtres humains. Et je pense que notre boulot dans la vie, notre boulot d'être humain, c'est de faire avec cette pulsion, d'apprendre à vivre avec. Et on fait ce qu'on peut. Donc parfois, on utilise les applis de rencontre pour rencontrer des inconnus. Et parfois, on ronge son frein, on rumine, on regarde de la pornographie, on se dit qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera jamais, etc. Enfin, il y a énormément de choses qui pèsent là-dessus.
Alexandre Lacroix.
Oui, alors, une question qu'on peut se poser, c'est l'articulation du désir et de la surabondance des représentations de la sexualité. C'est-à-dire que si on voulait écouter quelqu'un de manger, de la nourriture, vous pouvez le priver. À mon avis, ça ne va pas marcher, il aura faim et s'il trouve à manger, il se jettera dessus. Mais vous pouvez dégoûter quelqu'un de manger en lui présentant chaque jour un buffet énorme rempli de victoires, vous voyez. Et les plateformes de streaming, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le premier accès à ces plateformes pornographiques, c'est vers l'âge de 11 ans, mais en réalité, dès qu'un smartphone est entre les mains d'un jeune, ça y est, c'est parti. Ce sont des très courtes vidéos de quelques minutes qui sont spécialisées sur des pratiques ou des types de partenaires, mais qui ne ressemblent pas à la relation réelle qu'on peut avoir avec quelqu'un en face. On fait son éducation sexuelle pendant 4-5 ans, comme ça, avant le premier rapport sexuel. Et on peut se demander si cette surreprésentation, cette surabondance d'images, plus les applications de rencontre, on a une surabondance de profils de partenaires possibles, ne crée pas une forme de dégoût, c'est-à-dire ne vient pas quelque part faire passer le désir ou créer un état de vague écœurement latent où on se dit bon bah très bien, mais moi peut-être que ça me correspond pas tout ça, que j'aimerais vivre autrement, et on laisse le temps passer sans faire l'amour.
Mais pourquoi écrire un livre Apprendre à faire l'amour quand on est philosophe? C'est pour refuser les normes, refuser les schémas préétablis, refuser la manière de faire la plus commune?
Oui, exactement. Moi, je me suis beaucoup intéressé à une théorie qui est la théorie des scripts sexuels, c'est-à-dire qui nous dit que la sexualité humaine...
Des scripts sexuels.
Oui, de John Gagnon et William Simon. C'est une théorie américaine qui dit que c'est très simple. Hein, l'idée principale, c'est que la sexualité est culturellement codifiée. Et si vous réfléchissez aux scripts standards hétérosexuels, si deux partenaires se retrouvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Préliminaire, pénétration de plus en plus rapide jusqu'à l'orgasme au moins masculin. C'est très normatif, ce schéma. Et l'idée, puisque c'est un code culturel à travers un livre, c'était de proposer une déconstruction de ce script et puis d'aller ailleurs, c'est-à-dire de proposer un autre art érotique, une autre manière de faire l'amour, plus ouverte, plus libre.
Olivier Benhamou, vous partagez le diagnostic ou la manière de faire et la volonté de rompre avec ce script?
Alors, oui, parce qu'il y a plusieurs choses. On parlait de pornographie aussi. Donc oui, le script sexuel, c'est quelque chose, effectivement, qu'on interroge de toute façon quand on est en consultation de sexologie de manière extrêmement courante, parce que chacun a son script sexuel. Et peut-être que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aider peut-être chaque individu, et pas seulement les étudiants, hein, mais à tous âges de la vie, à inventer son propre script sexuel et qui ne serait pas un script effectivement hérité de la pornographie ou plaqué sur des représentations liées aussi à notre éducation. Moi, je rencontre aussi beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils ne veulent pas faire l'amour avant le mariage. Aujourd'hui encore. Ah, mais bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est assez...
Non, c'est surprenant. En tout cas, oui. Ça fait sourire Alexandre Lacroix, mais...
Non, et des mariages, il y en a de plus en plus, en revanche.
C'est vrai, oui, oui.
On a un témoignage avec Thibault qui dit à peu près ça. Il a l'air de considérer que c'est très important, très sérieux, l'investissement dans une relation sentimentale. Ce qui est intéressant dans les témoignages de jeunes qu'on a reconnus, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont soumis à des injonctions contradictoires. D'un côté, jouir sans entrave, il faudrait jouir, il faudrait aller sur ses applications, il faudrait être omnivore en matière de sexualité, tout tester. Et puis de l'autre côté, l'aspiration à trouver une relation romantique.
Il y a les vieux schémas qui ont la vie dure.
Mais oui, qui ont la vie dure. Et donc on doit négocier avec des... On les sent en train, dans les témoignages en tout cas, tous en train de négocier avec ces injonctions contradictoires. Et c'est peut-être ça qui rend les choses aujourd'hui peut-être plus compliqué en fait.
Bonjour Chantal.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter. Vous avez une question pour nos invités Alexandre Lacroix et Olivier Benhamou?
Oui, Oui, oui. J'ai un certain âge qui me permet d'apprécier la question du désir entre les hommes et les femmes, et je me demande si justement la qualité du désir entre les hommes et les femmes n'a pas changé, étant donné la différence aujourd'hui de relations possibles entre les hommes et les femmes. La question du consentement, etc.
Merci pour votre question, Chantal, Olivia Benhamou.
La qualité du désir, j'ai pas bien compris ce que l'auditrice entendait par là.
Chantal, qu'entendez-vous par là ?
Ben, avoir envie pour un homme d'une femme, est-ce que ça n'a pas été amoindri par tout ce qu'on a dénoncé du côté des hommes ? Et est-ce que ça n'a pas donné à la femme la capacité de dire non quand elle n'avait pas envie, et donc peut-être de diminuer la quantité et la qualité de son désir.
C'est beaucoup plus clair.
Oui, alors, merci pour cette précision. Et en effet, moi, je rencontre des couples de tous âges aussi au cabinet, et justement, là, ça me fait penser à une situation d'un couple où, pendant des années, la sexualité a été vécue sur le mode du diapason masculin, je dirais, et à un moment donné, malheureusement, un cancer de la prostate arrive, une érection qui est perdue, à un âge pas si avancé que ça, et une redéfinition de la sexualité qui n'est plus du tout autour évidemment d'une érection, mais d'une créativité à découvrir, à inventer, ou qui remet vraiment en question les choses. J'ai aussi beaucoup de couples qui effectivement, à partir de la soixantaine, on va dire, remettent en question la manière dont cette sexualité a été vécue. Et chez les jeunes, il y a aussi beaucoup d'interrogations, mais alors plutôt sur le versant de je dois donner mon consentement. Ça, les jeunes femmes le disent, mais elles me disent, mais je ne sais pas comment, c'est-à-dire à partir du moment où il m'embrasse, et je suis d'accord,
oui.
Mais après, est-ce qu'il doit encore me demander s'il peut me caresser, s'il peut soulever mon t-shirt ?
Une application.
C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a parlé bien évidemment du consentement, et ça, je pense que maintenant, c'est à peu près acquis, mais il va falloir aller plus loin, c'est-à-dire, ça s'applique comment, jusqu'où, et ça crée aussi le doute. Beaucoup de jeunes me disent, je ne sais plus ce que je veux vraiment. Je ne suis pas sûre de moi, finalement. À quoi je consens vraiment ?
Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot de plaisir.
Ah oui.
Alexandre Lacroix, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort lorsqu'on parle de sexualité. Est-ce qu'on peut parler de sexe sans évoquer cette dimension-là ?
Oui, on vient de parler de désir. Le désir et le plaisir sont évidemment liés. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que de la culture pornographique, sans doute, émane une forte injonction à la performance. Et donc, non seulement une injonction à la performance, il faudrait avoir un corps comme ça, mais il faudrait aussi avoir un orgasme à chaque fois. C'est-à-dire que on réduit la conception qu'on a du plaisir à, j'allais dire, les quelques secondes de crampe, d'orgasme final, là où on pourrait, au contraire, considérer que si on prend plaisir à faire l'amour pendant non pas 3 minutes, mais peut-être plus longtemps, c'est qu'on va chercher un plaisir plus étal, plus diffus, plus complexe, qui est aussi le plaisir de se rapprocher de l'autre, d'échanger dans un lieu très intime, de se découvrir soi-même et de découvrir l'autre, de nourrir la relation. Au fond, quand on parle du désir et du plaisir dans le couple, on parle toujours de problèmes. Moi, je suis frappé du fait qu'on parle toujours d'érosion, on parle toujours de quelque chose qui vient se déliter avec le temps, et la représentation du couple, c'est bon, c'est la routine, l'obligation, le devoir conjugal, on n'a que des termes très négatifs. Moi, il me semble quand même qu'on pourrait valoriser et magnifier ce qui se produit dans un couple, qu'il soit hétérosexuel ou non d'ailleurs, et se dire qu'un couple peut essayer de cultiver sa sexualité, de l'enrichir par des lectures, par des conversations et par la pratique. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que le plaisir, c'est bien autre chose que les quelques secondes d'orgasme. C'est quelque chose d'ailleurs qui peut se diffuser et imprégner, je dirais, la vie quotidienne tout entière.
Et Olivia Benhamou, si on mêle cette question du plaisir justement à celle du consentement, vous évoquiez le problème tout à l'heure, qu'est-ce que vous dites, vous, à vos patients sur la question du consentement ? Toutes les 5 minutes, il faut dire oui, ça c'est bon, oui, etc. Ou alors j'ai une application où je clique, ok, je suis d'accord. Et comme ça, on retrouve la voie d'un plaisir sans se poser de questions et un peu plus libre et un peu plus épanouissant peut-être ?
Alors moi, ce que j'encourage les jeunes patients à faire, c'est surtout à déjà apprendre à se connaître eux-mêmes et à connaître leur corps aussi en état d'excitation, parce qu'on parle du désir et du plaisir, mais entre les deux, et nous les sexologues on tient beaucoup à ça, il y a la question de l'excitation sexuelle, parce que finalement les rapports sexuels qui se passent mal et qui ne sont pas consentis sont des rapports sexuels où il n'y a pas d'excitation sexuelle suffisante, et il y a effectivement une pénétration qui arrive de manière beaucoup trop précipitée.
précipité et pas du tout et potentiellement pas consenti. Mais donc dans la découverte de soi, c'est là qu'il y a les clés pour justement savoir ce qu'on veut, puisque on peut pas attendre. Et ça, il y a encore trop de personnes individuelles, quelles que soient les générations, qui s'en remettent à leur partenaire pour déterminer ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent, ce dont elles ont envie, si vous voulez. Et moi, je pense que chacun est responsable individuellement de son plaisir, et le fait de s'en remettre complètement à l'autre, comme beaucoup de patients, même de tous âges, continuent à avoir énormément de réticence à se masturber pour des raisons culturelles, parce que ça reste un tabou, comme si finalement, ah ben non, moi je me masturbe pas parce que je suis en couple, donc en fait c'est mon partenaire ou ma partenaire avec qui je dois avoir du plaisir.
Sauf c'est que ce que dit Sylviane d'ailleurs sur l'application France Inter, voilà. L'importance de la masturbation qui fait partie de la sexualité, y compris pour
sinon le rapport sexuel, juste pour terminer, c'est je me masturbe sur ou avec le corps de mon partenaire, et là ça donne lieu effectivement à des débordements, à non prise en compte du consentement et à des rapports sexuels vraiment, je dirais, pauvres finalement, puisqu'ils aboutissent à un petit orgasme qui n'a rien à voir avec le grand plaisir et la jouissance qu'on peut éprouver dans une relation vraiment partagée.
Et Alexandre Lacroix, du coup, est-ce que le blocage, est-ce que ce qui coince, c'est pas justement cette arrivée de la notion de consentement et le temps d'inventer une nouvelle grammaire, d'arriver à retrouver la voie de la relation avec le consentement à l'intérieur. C'est ce dont vous parlez dans votre livre. Il faut arriver à rééquilibrer, réinventer.
Oui, mais je pense aussi que la notion de consentement ou le critère du consentement est aujourd'hui très critiqué, y compris par des féministes. Je pense à Manon Garcia notamment. Et il me semble que le consentement éclairé du patient en médecine, c'est le patient est dans un état rationnel, il a bien compris ce qu'on lui disait, il consent au traitement,
mais
le protocole est clair. Ben oui, non, c'est l'autre domaine d'éthique appliquée où le critère du consentement se pose. Or, on voit bien qu'en matière de sexualité, ce consentement éclairé, rationnel, etc., n'est pas toujours garanti, que le jeu de séduction est là, il peut y avoir quelques verres d'alcool, il y a un trouble, il y a du désir mutuel. Moi, j'aurais tendance à dire que un critère important, c'est le principe de non-nuisance, hein, ce qu'on appelle le no harm principle, c'est faire attention à ne pas blesser l'autre, c'est déjà pas mal. Parce que le problème du consentement, c'est que ça met toute la responsabilité du fait de dire non sur la victime potentielle. Alors que ne pas nuire à autrui, c'est du côté de l'agresseur potentiel que ça se pose. Vous voyez, on pourrait lire autrement, éthiquement, les enjeux de la relation sexuelle.
Revenons quand même, parce que c'est la fin de cet entretien sur la dimension du plaisir et du désir, mais vous critiquez très durement la notion de fantasme dans votre édito, Alexandre Lacroix. Le fantasme, c'est quelque chose d'important et qui doit être, une piste, une idée régulatrice de la pratique sexuelle.
Ah oui, je pense que le fantasme est à la base de la construction de notre imaginaire érotique et que c'est un peu comme un muscle, enfin, c'est quelque chose à quoi il faut s'entraîner, ça te fait mal à personne, c'est quelque chose qu'on peut cultiver de manière solitaire mais qu'on peut aussi partager à l'occasion avec son ou sa partenaire.
Bah, Alexandre Lacroix, justement, pour conclure.
Oui, alors deux mots contre le fantasme. D'ailleurs, la plupart des lecteurs m'ont dit je suis d'accord avec toi, mais tu vas te faire attaquer pour cet édito. Deux mots contre le fantasme. La première chose, c'est que ça crée un arrière-monde, c'est-à-dire ça crée un scénario idéal de ce que devrait être la relation qui nous coupe de vivre la relation complètement au présent. Et d'autre part, quand on commence à parler de ses fantasmes à son partenaire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ordre ou de l'injonction. On lui demande de se conformer à un scénario qu'on a en tête, et peut-être qu'il en a juste rien à cirer. C'est un peu comme quand vous racontez vos rêves à quelqu'un, il en a peut-être rien à cirer de votre rêve. Voilà. Donc c'était un édito en forme de pied de nez. Voilà.
Et on peut terminer en citant Lacan. Il n'y a pas de rapport sexuel. On discutera un jour pour savoir ce que ça veut dire. Philosophie magazine dans les kiosques. Sexe. Où est-ce que ça coince? Merci Alexandre Lacan. Olivia Benamou, petit guide d'entrée dans la vie sexuelle, c'est au Cherche Midi et c'est distribué aux étudiants essentiellement.
Oui, c'est acheté par les universités principalement et offert gratuitement aux étudiants, mais il est aussi en vente en librairie.
Merci à tous les deux.
Merci.
À suivre la revue de presse.
Merci. France Inter, 13h20, Nathalie Yaneta.
Ce dimanche dans l'esprit sport du soleil, enfin, le vice-champion du monde de judo qualifié pour Paris 2024 dans la catégorie moins de 100 kilos, Aurélien Dies, est notre invité.
L'esprit sport, tous les dimanches à 13h20 sur Inter.
France Inter, partenaire de Un soir avec les impressionnistes, Paris 1874 au musée d'Orsay. Une expérience immersive inédite pour revivre l'inauguration, ce soir du 15 avril 1874, de la toute première exposition impressionniste. Laissez-vous transporter aux côtés de Monet, Renoir, Morisot, Cézanne pour une expédition en réalité virtuelle riche en sensations.
Un soir avec les impressionnistes, Paris 1874, au Musée d'Orsay jusqu'au 11 août. Un événement France Inter.
8h43 sur France Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Céline Dacosta, les averses, c'est pour l'est du pays aujourd'hui.
Oui, des averses qui vont raser toutes les régions des côtes méditerranéennes au nord-est aujourd'hui. Elles seront parfois orageuses, localement soutenues, notamment sur les Cévennes. On va surveiller les cumuls de pluie. La Corse va rester au sec avec un grand soleil. Et la tendance sera à l'amélioration pour les Alpes-Maritimes et le Var. Dans le courant de la journée, on aura un soleil voilé. Des averses, on en a moins qu'hier à l'ouest, mais il en reste sur la façade atlantique, les bords de Manche ce matin. Elles vont rentrer un petit peu plus dans les terres cet après-midi. Partout ailleurs, ce sera alternance de nuages et d'éclaircies. Ce ciel perturbé, changeant, eh ben c'est le type de temps qu'on va avoir tout au long de la semaine prochaine.
Et les températures, elles sont toujours de saison ?
Oui, l'après-midi en tout cas, avec une moyenne de 12 au Havre jusqu'à 19 degrés à Nice, en passant par 14 à Caen, 16 à Paris, 17 à Bordeaux. Ça va grimper jusqu'à 26 à Ajaccio. Puis ce matin, c'est un peu plus frais, en légère hausse quand même par rapport à hier, 6 à 15 degrés du nord au sud.
Merci Céline Dacosta et merci à vous d'écouter Inter. Il est 9h moins le quart.
France Inter, Marion Lourd, Ali Badou. Le 6-9.
Le carrefour du 6-9 avec Nadia Dam, Karine Bécart et Christophe Bourseiller. Bonjour.
Bonjour.
Au programme jusqu'à 9h dans Famille & Co, Nadia Dam.
On va se poser une question. Peut-on choisir les souvenirs que les enfants vont garder de leurs premières années ?
Pourquoi est-ce que le monde vous en fout ce matin, Christophe Bourseiller ?
Aujourd'hui, je m'interroge, Ali. Pourquoi avons-nous besoin de surprises ?
Belle question, la réponse tout à l'heure, mais d'abord la revue de presse, Karine Bécart.
Et ce qui est partout dans la presse ce matin, Karine, c'est le Belém qui a quitté le port d'Athènes hier pour rejoindre la France.
Avec à son bord, bien sûr, la flamme olympique qui doit arriver dans 11 jours désormais à Marseille. Alors si vous voulez admirer la plus jolie photo de ce trois-mâts de légende ce matin, elle est à mon avis en première page du journal Ouest France. Que voulez-vous ? Ils s'y connaissent en matière de bateaux, les Bretons, et si vous êtes comme moi très intrigué par cette fichue lanterne qui doit protéger la précieuse flamme olympique, lisez plutôt Le Parisien ce dimanche, vous découvrirez que ces lanternes, parce qu'il n'y en a pas qu'une, sont spécialement conçues depuis 30 ans de la même façon pour préserver cette flamme si spéciale. Maintenant, si vous trouvez qu'on en fait un peu trop, eh bien ne manquez pas dans l'Est républicain cette savoureuse interview ce matin d'un professeur des universités Alexandre Farnoux, un historien helléniste qui revient sur la cérémonie notamment d'allumage de la flamme avec, vous savez, tous ses participants vêtus à l'antique avec des gestes très cérémonieux. Cela relève, assure ce spécialiste, plus de la fantaisie que de la réalité antique. Et il complète un brin sarcastique. Si les anciens pouvaient observer aujourd'hui ces pratiques, ils seraient probablement très amusés par nos efforts et notre inventivité. Je n'ai rien à ajouter.
Parole de quelqu'un qui porte un pull marin. Il est aussi beaucoup question dans les journaux ce matin des élections européennes. On est à 6 semaines du scrutin, Karine.
Oui, avec en particulier une charge très violente lancée dans Le Parisien aujourd'hui en France par la présidente de l'Assemblée nationale contre la tête de liste du RN, Jordan Bardella. Pour Yael Braun-Pivet, c'est un candidat qui ne propose rien, qui n'assume pas son bilan, qui ne fait pas campagne, qui ne répond pas à la presse et qui ne présente pas de programme. Peut-être, sauf que son avance pour l'instant dans les sondages est impressionnante. Ce qui fait d'ailleurs sacrément douter la présidente de l'Assemblée qui s'inquiète de voir la majorité passer à côté de ces élections européennes. Alors à qui la faute ? Pour Yael Braun-Pivet, cette poussée aujourd'hui du Rassemblement national, c'est un échec collectif de tous les Républicains. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, s'affiche en première page ce matin d'une bonne partie de la presse quotidienne régionale, dans Le Progrès, dans Le Dauphiné Libéré, dans Le Bien Public, dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Bref, le chef de l'État est dans tous les journaux qui appartiennent au groupe Ebra et il parle à la jeunesse. Enfin, plus précisément, Emmanuel Macron s'adresse à 12 jeunes, 9 Français, une Italienne, une Tchèque et un Allemand pour les convaincre d'aller voter. L'abstention n'est pas une fatalité, titre tous ces journaux. Et le président reconnaît que les jeunes, aujourd'hui, n'hésitent pas à s'engager. Ils savent se mobiliser, mais pour des causes
précise seulement pour des causes concrètes qu'ils défendent la plupart du temps sur leurs réseaux sociaux. Le chef de l'État tente donc ce matin, vous verrez, de les convaincre d'élargir leurs horizons et de s'investir plutôt dans la mise en œuvre d'une politique plus globale et plus complète. Ce qui, a priori, n'est pas gagné. À la lecture d'une étude très intéressante publiée dans la Tribune dimanche, on y apprend que 64% des 18-30 ans, autrement dit, 2 jeunes sur 3, ne se sentent pas du tout représentés en politique par personne, par aucun parti. D'ailleurs, ils sont 78%, c'est pire, à considérer que de toute façon, leur voix, même s'ils la donnaient, ne compterait pas ou compterait si peu dans les décisions politiques. Et c'est vrai que la jeunesse, rappelle cet article dans la Tribune ce matin, cette jeunesse aujourd'hui est devenue tellement minoritaire dans notre pays, elle représente 9% seulement. Ah oui. Les 18-25 ans ne sont que 9% seulement de la population totale. C'est presque moitié moins que les plus de 70 ans. Et c'est un mouvement, évidemment, qu'on peut difficilement faire cesser et qui ne va faire que s'amplifier. Bref, c'est une enquête du Cercle des économistes à décortiquer ce matin dans la Tribune dimanche. La Tribune dimanche, j'en profite, qui met à sa une le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, mine sérieuse, vous verrez, mais pas sévère, et qui nous présente son nouveau plan contre les narcotrafiquants. Comprenez par là qu'après les opérations Place Nette, des opérations policières qui se sont multipliées toutes ces dernières semaines contre les trafiquants de drogue, eh bien la réponse doit désormais être judiciaire. Et le garde des Sceaux veut apparemment frapper très fort avec notamment la création d'un statut du repenti et la mise en place d'un nouveau type de parquet, un parquet national consacré tout spécialement à la lutte contre le crime organisé.
Et un mot pour finir, Karine, du Paris Saint-Germain.
Oui, parce que le club de football parisien fait la une ce matin du quotidien L'Équipe, qui nous explique à quel point ces joueurs hier soir, ont été déterminés, je cite, dans le refus total de la défaite. C'est beau, le refus total de la défaite face au Havre. Ils ont fini sur un match nul, 3-3, après avoir été dominés une partie de la soirée. Alors que, je le rappelle tout de même, on annonçait dès hier soir le 12e titre de champion de France du PSG. Autrement dit, le club a buté sur le 15e au classement de la Ligue 1. Et ce sont, me semble-t-il, si vous me le permettez, les Havrais qui ont été héroïques.
L'arbitresse de Karine Beccarali n'acquiesce pas. Mais...
Si, si, vive les Havrais.
Au programme de questions politiques tout à l'heure.
Le trublion de la droite, Aurélien Pradier, député du Lot. Rendez-vous à midi.
Rendez-vous à midi. Il est 9h10 sur Inter. Famille Enco, Nadia Dam. Et ce matin, vous revenez sur une expression de plus en plus populaire et qui était aussi devenue une tendance sur TikTok. C'est ce qu'on appelle le corps mémorise.
Oui, et comme souvent avec ce genre de concept très contemporain, je n'ai pas de traduction littérale à vous proposer, Ali. D'abord parce que corps mémorise, ça fait directement référence à un objet culturel du 21e siècle, en l'occurrence le film d'animation Vice Versa.
Formidable.
Dont la suite est d'ailleurs prévue au mois de juin prochain. Inside Out en anglais, c'est ce génial, génial long métrage Disney Pixar. Il est sorti en 2015 et il a déjà l'immense qualité de ne pas comporter de chansons, risquant d'aggraver le stress post-traumatique consécutif au 87e visionnage de la Reine des Neiges. Et on est donc nombreux à avoir pleuré comme des veaux en suivant les aventures du personnage de Riley et sur toutes ses émotions principales personnifiées, incarnées physiquement par des avatars, les dénommés peur, joie, tristesse, dégoût et colère. Colère, c'est mon préféré, c'est une sorte de Philippe Etchebest dans Top Chef, mais en plus tendax encore. C'est un film qui développait surtout une théorie bien particulière, l'idée que notre personnalité d'adulte serait entièrement déterminée par 5 souvenirs d'enfance fondamentaux qui serait ensuite stocké dans une sorte de mémoire tampon de notre cerveau.
Les souvenirs vraiment importants sont là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça s'appelle la mémoire centrale. Elle contient tous les souvenirs vraiment importants dans la vie de Riley. Comme quand elle a marqué pour la première fois. Oh, c'était incroyable! C'est la mémoire centrale qui alimente les différents aspects de la personnalité de Riley.
Alors, tout ça, c'est du cinéma, bien sûr, mais le concept a été jugé suffisamment séduisant pour être avalé tout cru par des millions de personnes, parmi lesquelles de très nombreux parents, qui s'efforcent depuis de participer activement à la création de ces fameux souvenirs capitaux dans le cerveau de leurs enfants.
Et comment ça se passe concrètement ?
Eh bien, ça se passe déjà sous le hashtag CorpsMemories, qui cumule des milliards de vues sur TikTok, Instagram ou encore YouTube. On parle de vidéos, essentiellement, qui montrent des tranches de vie de famille, savamment montées, filtrées et aussi mises en musique. Citons par exemple un grand classique, des enfants qui courent sur la pelouse en s'esclaffant, le tout sur quelques touchantes notes de piano qui ne sont pas sans rappeler la musique de la pub Royal Canin. Des instants d'allégresse pure que le cerveau est censé conserver et faire donc de ces enfants de futurs adultes épanouis, équilibrés, nourris qu'ils seront de ces émouvantes réminiscences.
On aimerait y croire, mais ça marche ça ?
Bah, pas du tout. En tout cas, si on se réfère davantage à la science qu'à Disney, ce qui est jamais idiot quand on y pense, cette théorie des corps mémorise, elle a même tendance à irriter copieusement de très nombreux neuroscientifiques qui sont aujourd'hui contraints de rappeler les bases du fonctionnement de la mémoire. D'abord, nos cerveaux sont évidemment capables de stocker plus que quelques souvenirs d'enfance. Celia Harris et Penny Van Bergen, qui sont toutes les deux spécialistes de la mémoire autobiographique, eh ben, elles décrivent la mémoire humaine comme un grand espace sans limite de taille ni de capacité dans lequel vont s'accumuler les souvenirs par milliers. Par ailleurs, disent toujours ces scientifiques, on ne peut pas délibérément choisir quels sont les souvenirs que nos enfants vont garder de leurs premières années. Ce serait évidemment trop simple. Ces sales petits ingrats vont même plutôt se souvenir de la seule fois où vous êtes allé les chercher en retard à l'école.
Bien sûr.
Et oublier toutes les fois où vous avez tenu un stand de pêche à la ligne à la kermesse de cette même école. Et puis enfin, cette mode du corps mémorise, soit donc le fait de filmer, mais aussi de diffuser publiquement ces moments partagés avec son enfant, bah ça pose aussi la question de ces supports de mémoire que sont devenus les réseaux sociaux, au détriment des bons vieux albums photos.
Mais parce qu'on ne fait plus de photos de famille.
Bah de moins en moins, ou en tout cas, on les oublie aussitôt. Chaque jour, 638 millions de clichés sont pris au smartphone en Europe de l'Ouest, mais seuls 20% des Français impriment encore systématiquement ou régulièrement leurs photos. Aujourd'hui, la photo, eh ben, elle sert moins à garder une mémoire qu'à partager ce que l'on vit. Ça, c'est l'analyse de la psychanalyste Christine Olivetti.
C'est fort, vous pouvez la répéter la phrase.
Ouais, c'est beau, hein. La photo sert moins à garder une mémoire qu'à partager ce que l'on vit. D'aucuns diront que c'est un peu triste, d'aucuns comme moi diront que c'est pas si grave s'il n'existe plus de preuves matérielles de la frange en biseau, qu'on s'est trimballé tout son CO2. Car c'est là la seule chose dont on est sûr, Ali Marion, les adultes d'aujourd'hui ont un souvenir commun impérissable. On a tous, à un moment de notre enfance, eu la coupe de cheveux d'Angela Merkel.
Ou d'un Playmobil.
Ou d'un Playmobil, voire les deux. Bref, il n'y a pas de corps mémorise, mais on a tous des souvenirs de coupe au bol hardcore qu'on préféra oublier.
Famille Co, merci Nadia Dam.
Christophe Bourseiller, à présent, à 9h05. Voilà ce monde qui nous rend fous. Et aujourd'hui, on commence, Christophe, avec un extrait de film.
Qu'est-ce qui t'amène en ville, Conrad ? Besoin de quelque chose ?
Le 12 octobre. C'est l'anniversaire de Nicky. Tiens, pour toi.
Conso récré service.
Appelle ce numéro.
Pourquoi ?
Ils te mettent du piment dans la vie.
La bande-annonce du film The Game, le jeu, traduction de David Fincher, s'est sortie en 1997. Pourquoi avoir choisi ce film, Christophe ?
Mais le chef-d'œuvre, Christophe !
Ah oui, c'est génial. Mais rappelez-vous, Marion, de l'intrigue de ce grand film. Un homme d'affaires qui s'ennuie dans la vie car il a déjà tout, accepte de jouer à un jeu dans lequel il risque d'être surpris. Et ce chef-d'œuvre d'intelligence pétillante nous fait justement rebondir de surprise en surprise jusqu'à atteindre un degré de délire inouï. Alors, surprenez-moi, Marion.
Allez.
Offrez-moi des fleurs.
Mais oui.
Je ne sais si vous l'avez remarqué, mais les autres que nous sont devenus terriblement prévisibles. Nous vivons la dictature des clichés. Or, j'aimerais la briser, cette routine pavlovienne, modifier ces destins trop écrits, instaurer du mystère et de la provocation, vivre intensément ce que Stéphane Mallarmé, un peu de culture, nommé, désigné comme le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui. Dans ce monde où tout le monde prononce constamment les mêmes banalités en les croyant inédites, alors qu'ils les ont puisées dans le ronron de l'époque, donnons ce matin un coup de canif dans le contrat,
vous
voyez.
Donc vous avez vraiment envie de vivre ce qui tombe sur la tête de Michael Douglas dans The Game.
Mais sortons, vous et moi, des sentiers
vous
rebattus.
Vous voulez nous surprendre.
Ali. Oui, Ali, sortons, vous et moi, des sentiers rebattus. Que diable. Prenez garde, voilà la jeune garde. Oui, j'aimerais ce matin que nous nous surprenions les uns les autres.
Okay.
Et je viens de lire un essai à la fois sadomaso, ça c'est curieux, et néanmoins bénéfique, nommé « Le pouvoir de la surprise, même mauvaise », avec en sous-titre « Une émotion qui nous aide à nous sentir vivants ». Et c'est signé par le psychologue social et spécialiste de l'intelligence émotionnelle, Christophe Haag.
Et qu'est-ce qu'il dit, Christophe Haag ?
Eh bien, l'idée de base, Marion, c'est que nous avons besoin de surprises, au pluriel, comme nous avons besoin d'air et d'eau. Mmh. La surprise, c'est ce qui permet de rester vivant. Je cite l'auteur. « La surprise permet la renaissance, la catharsis. » Tout souffle s'essouffle. Voilà pourquoi il faut constamment remettre une pièce dans la machine. Et il va plus loin, Marion. Citant une surprisologue.
Ah oui.
Oui, ça existe. Nommée Tania Luna. Il estime que la surprise est un exhausteur d'émotions. La surprise donne du piquant à l'existence. C'est l'épine dans la rose. Le petit goût poivré apparaissant tardivement dans le plat épicé. Je recite Christophe Haag. La surprise intensifierait nos émotions d'environ 400%. Ce qui explique pourquoi nous aimons tant les surprises plaisantes et détestons les surprises déplaisantes. plaisante. La surprise émeut. La surprise touche au sentiment, à l'affect, à la passion. Et du coup, ça peut aussi faire mal. Lorsque quelqu'un rentre chez lui et trouve la maison vide parce que son ou sa conjointe est partie en emportant les meubles, la douleur est encore plus intense que si la rupture avait été verbalisée.
La surprise, c'est donc une épice de l'amour.
Mais c'est une très jolie question, Ali. Oui, oui, en effet, oui. J'en suis persuadé. Et d'ailleurs, les couples qui se délitent souffrent bien souvent de la banalité d'un quotidien sans surprise. On ne veut pas s'ennuyer dans la vie, comme l'écrit Christophe Haag. Je reste intimement persuadé que l'ennui, la routine qui s'installe au fil des années, la baisse du taux de surprise joue un rôle significatif dans le fait que deux humains décrochent affectivement. Mais me direz-vous, Ali, comment fait-on concrètement pour tromper le démon de l'ennui et ne pas sombrer dans la routine au fil des années? Vous voyez, l'ex-négociatrice du RAID et du groupe d'intervention de la police nationale, Anne-Gervaise Vendange, répond. Alors elle répond de façon paradoxale, ce qui importe, ce n'est pas forcément d'être producteur ou productrice de surprises tout le temps. Ce qui compte avant tout, c'est de surprendre l'autre par qui on est. Alors devenons, Ali et Marion, des surprises sur pattes. Soyons la surprise incarnée. C'est notre imprévisibilité qui nous sauve du conformisme, de la doxa, du prêt-à-penser, du politiquement correct et du prêchi-prêcha. Et comme le dit Christophe Haag en une jolie formule, houdinisons-nous, en référence au célèbre magicien Houdini, oui, qui savait toujours générer la surprise. Alors après le marxisme, le gaullisme, le libéralisme, le fascisme, le wokisme, moi je dis place à l'houdinisme.
Et au prestige.
Pourquoi ce pas. Monde me rend fou. Merci Christophe Bourseiller. Le journal à suivre.
France Inter, c'est aussi une chaîne YouTube.
Lison Daniel, Paul Mirabel, Aymeric Lomprey. D'accord.